Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il y a tout juste 100 ans, on assistait à la plus incroyable découverte égyptologique de tous les temps. Enfin, moi je n'y étais pas, mais on m'a raconté. Voilà un siècle, en effet, un archéologue britannique autodidacte perçait le mur du tombeau somptueux et quasi inviolé de Toutankhamon. Je vous raconte celui qui a inscrit à jamais son nom dans l'histoire grâce à cette découverte qui lui a causé bien des ennuis aussi. Howard Carter. Remontons le temps 100 ans en arrière. Direction la Haute-Égypte et plus précisément la vallée des rois, la nécropole royale de Thèbes, antique capitale des pharaons. Dans cette gigantesque vallée désertique, sorte d'amphithéâtre naturel baigné d'un soleil brûlant, un homme de 48 ans, archéologue britannique à la moustache épaisse, trépigne d'impatience. Il faut dire qu'en ce 26 novembre 1922, voilà près de 5 ans, Howard Carter, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, attend ce moment. 5 ans qu'il fouille cette ouède aveuglant à la recherche d'une tombe que tout le monde croit perdue. La tombe d'un roi effacé de l'histoire qui a régné sur l'Égypte aux alentours de 1320 avant notre ère, c'est-à-dire en plein âge d'or de la civilisation égyptienne. 5 ans d'une quête obstinée à y croire contre vents et marées. Et voilà que ses efforts vont enfin payer. Enfin, peut-être. Carter est sur le point d'en avoir le cœur net. Il se rejoue la scène en boucle dans sa tête, celle qui s'est déroulée 3 semaines auparavant, ce 4 novembre, où tout a basculé. Ce jour où les ouvriers du chantier lui ont annoncé qu'une marche venait d'être mise au jour dans sa zone de fouille. Était-ce trop beau pour être vrai ? Non. Au crépuscule, après avoir dégagé une marche après l'autre, le haut d'une porte scellée leur est apparu. Alors, il espère. Il veut se dire qu'il a eu raison d'y croire, raison de convaincre le très fortuné Lord Carnarvon, son mécène, de financer une ultime campagne de fouilles, celle de la dernière chance. C'était il y a 3 semaines donc, et depuis Howard Carter attend, une attente éprouvante, car il sait que là, juste sous ses pieds, à portée de pioche, se trouve certainement ce qu'il cherche depuis si longtemps. Mais cette attente est terminée. Lord Carnarvon est rentré en urgence d'Angleterre et il va enfin pouvoir ouvrir la tombe que Carter espère être celle de Toutankhamon, fils du pharaon Akhenaton. Oui, il a bien trouvé un sceau au nom du roi sur la porte, mais est-ce la tombe du souverain qu'il cherche depuis tant de temps ou celle d'un noble enterré dans les lieux à la faveur royale ? En ce 26 novembre 1922, l'instant décisif est arrivé. À quelques mètres sous la surface, au bout du couloir long et étroit que les ouvriers ont dégagé derrière la première porte, Howard Carter, Lord Carnarvon et Lady Evelyn Herbert, sa fille, se trouvent face à la porte qui scelle l'entrée du tombeau. Les mains tremblantes, Carter pratique une ouverture dans la porte, puis lentement, minutieusement, il y introduit une tige de fer qui ne rencontre que le vide. Pour s'assurer qu'aucun gaz toxique n'en émane, il place une bougie devant l'ouverture. Elle vacille. Un air chaud se dégage de la pièce, mais la flamme tient bon. Alors, il élargit le trou et enfin se risque à un premier regard. D'abord, le noir est complet. Puis, à mesure que ses yeux s'accoutument à l'obscurité, des formes se dessinent. On dirait d'étranges animaux, des statues. Et quelque chose scintille, de l'or. Il y a de l'or partout, de l'or qui reflète intensément la lumière de sa chandelle. Pendant quelques secondes, Carter reste muet de stupeur. Puis n'y tenant plus, Lord Carnarvon lui demande s'il voit quelque chose. Oui, Carter voit quelque chose. Des choses merveilleuses, leur répond-il. Et ce n'est que le début. La pièce qu'ils viennent d'ouvrir fait partie d'un ensemble constitué d'une antichambre, une annexe, une chambre funéraire et une salle du trésor. Et elles sont toutes pleines à craquer d'un trésor de près de 5400 artefacts. Une caverne d'Ali Baba, abandonnée depuis plus de 3000 ans, où s'entassent des dizaines de statues de divinités, dont celle d'Anubis, le dieu protecteur des morts, de fabuleux bijoux, des coffrets dorés contenant les viscères du roi, des jarres de vin millésimé, des maquettes de bateaux, des sceptres royaux et même 6 chars. Et surtout, dans un cercueil en or massif de 110 kilos, la momie du jeune pharaon Toutankhamon, fauchée entre 18 et 20 ans, dont la tête est recouverte d'un chef-d'œuvre absolu, un masque funéraire en or, serti de pierres précieuses. La nouvelle de la découverte de la tombe se répand comme une traînée de poudre. Les journaux du monde entier relaient le scoop. Les Occidentaux, dont la fascination pour l'Égypte antique commençait à se ternir, sont de nouveau pris d'une fièvre égyptomaniaque. Quel aboutissement pour Howard Carter! Cette découverte est celle de sa vie. Son nom sera pour toujours associé à celui de Toutankhamon. Lui, dont la carrière avait été entachée 17 ans plus tôt par une sombre affaire de dispute, une affaire qui s'était soldée par sa démission du prestigieux service des antiquités égyptiennes. Un parcours singulier pour cet Anglais, au caractère bien trempé que rien ne prédestinait à devenir l'une des figures majeures de l'égyptologie. Pour commencer, Howard Carter est issu d'une famille relativement modeste, chose rare dans ce milieu élitiste et savant. Et puis surtout, il n'a pas fait d'études universitaires. Originaire d'une petite ville de l'est de l'Angleterre, il est le cadet d'une fratrie de 11 enfants et n'a ni étudié l'archéologie, ni même l'histoire. C'est par l'intermédiaire d'un autre prisme que sa carrière a débuté, l'art. Car comme son père, Samuel John Carter, peintre reconnu, Howard est un artiste talentueux. Et c'est en tant qu'aquarelliste, à 17 ans à peine, qu'il est envoyé pour la première fois en Égypte. Il a dégoté une mission, recopier les peintures des tombeaux du site de Beni Hassan. C'est le début de presque 15 ans, d'une série de missions sous la houlette des plus grands archéologues de l'époque. Percy Newberry, William Flinders Petrie, Henri-Édouard Naville, Théodore Monroe Davis, Gaston Maspero. Grâce à ce dernier, justement directeur du prestigieux service des antiquités égyptiennes, Carter est nommé au poste d'inspecteur en chef de Haute-Égypte à l'âge de 26 ans. Il n'y fera pas long feu. 5 ans plus tard, à cause d'une dispute qui tourne au vinaigre, il claque la porte de l'institution. Un mal pour un bien quand on connaît la suite de l'histoire, mais un incident révélateur de son caractère houleux et qui laisse présager un autre conflit à venir, étrangement mal connu, et qui va avoir des répercussions immenses. Depuis 1905, Howard Carter, désormais la trentaine, ne fait donc plus partie du service des antiquités égyptiennes. Mais fort de son expérience acquise sur le terrain, il trouve vite un autre employeur. Lord Carnarvon, richissime mécène féru d'archéologie, l'engage en 1907 pour mener à ses côtés plusieurs campagnes de fouilles. Le duo fonctionne bien, si bien même que 17 ans plus tard, en 1922, c'est ensemble qu'ils feront la découverte du KV-62, la 62e tombe découverte dans la Vallée des Rois, celle de Toutankhamon. Lord Carnarvon n'aura pas la chance d'en profiter bien longtemps. 4 mois seulement après l'ouverture de la tombe, l'homme de 56 ans est terrassé par une fièvre soudaine. A-t-il été victime d'une malédiction? La rumeur enfle. Quoi qu'il en soit, Carter, pourtant le premier à pénétrer dans la tombe, vivra encore de très longues années, 17 ans pour être très précis. Toutefois, une autre sorte de malédiction l'aura poursuivi. Non pas égyptienne celle-ci, mais française. Elle a un nom, Pierre Lacot. Remettons les faits dans leur contexte. Fin 1922, le royaume d'Égypte vient d'être connu par les Britanniques. Et dans le climat nationaliste qui règne alors, la fuite des trésors de l'Égypte ancienne vers l'Occident est très mal tolérée. Quelques mois avant l'ouverture du tombeau, Pierre Lacot, successeur de Gaston Maspero au poste de directeur du service des antiquités égyptiennes, avait envoyé une circulaire aux savants étrangers. Désormais, l'État égyptien décide seul s'il souhaite ou non remettre aux fouilleurs une partie des objets trouvés. Une loi fut officiellement adoptée le 6 décembre 1922, soit un mois après la découverte de la tombe de Toutankhamon. C'est le début d'un bras de fer qui durera plusieurs années entre les deux hommes. L'un voulant à tout prix privilégier ses financeurs et ramener une grande part du trésor de Toutankhamon en Angleterre et aux États-Unis, l'autre s'opposant avec fermeté à la circulation de tels biens nationaux. Pierre Lacot, savant intraitable, finira par avoir gain de cause, initiant un principe qui prévaut encore aujourd'hui : les antiquités trouvées dans un pays reviennent à ce pays.